Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hyperoxalurie primitive et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Vincent Estrade. Docteur Estrade, bonjour.
Bonjour.
Docteur Estrade, vous êtes chirurgien urologue et praticien hospitalier au sein des services d'urologie du CHU Pellegrin de Bordeaux et du CH d'Angoulême, où vous êtes responsable de la prise en charge de la maladie lithiasique. Vous êtes également membre du comité lithiase de l'Association française d'urologie et à l'initiative des RCP lithiase urinaire du CHU de Bordeaux et du CH d'Angoulême. Alors ma première question s'adresse bien sûr à l'urologue spécialiste de la maladie lithiasique. Face à un tableau clinique de lithiase, comment penser au diagnostic d'hyperoxalurie primitive?
Alors en pratique, l'hyperoxalurie primaire, comme on le sait, est une maladie extrêmement rare. Donc en pratique, c'est compliqué d'y penser au quotidien. Mais comme les maladies génétiques habituellement, il faut s'intéresser dès l'interrogatoire, se renseigner sur le caractère familial ou non des événements lithiasiques, au caractère récidivant des calculs urinaires du patient, à la consanguinité éventuelle dans la famille et à l'aspect radiologique éventuel qui peut commencer à évoquer une néphrocalcinose. Donc si au quotidien, on n'aura pas forcément ce diagnostic en première intention qui arrivera à notre conscience, il faut systématiquement, dans l'interrogatoire, être rigoureux et poser toujours les mêmes questions qui vont pouvoir éveiller en nous cette sensibilité à une maladie génétique plutôt qu'à une maladie métabolique ou un problème lithiasique du quotidien lié à des défauts diététiques. Donc ces questions doivent être systématiques, à mon sens, dans l'interrogatoire du patient lithiasique.
Et dans ce cadre-là, pourquoi toujours adresser un ou des fragments de calcul pour analyse?
Alors, le diagnostic positif d'hyperoxalurie primaire dépend en partie de cette analyse de calcul, mais cet examen du calcul, cette morphologie du calcul, va révéler l'hyperoxalurie primaire. L'urologue, et moi aussi, comme tous les autres urologues, nous avons été formés à la maladie lithiasique au sens de connaître les différents éléments cristallins qui composent un calcul, comme la whewellite, la whedellite, l'acide urique, l'urate, la carbapatite, la struvite, la bruchite. On a connaissance ou conscience de ces éléments cristallins. Mais ce dont on a difficilement conscience, c'est la morphologie du calcul. Pourtant, ça fait plus de 25 ans maintenant que la classification de Michel Onon a été publiée, mais on n'a pas réussi à s'approprier cette classification. On commence à se l'approprier avec la reconnaissance endoscopique, et cette morphologie, cet aspect du calcul est extrêmement particulier, et cette morphologie incée va orienter le diagnostic d'hyperoxalurie primaire. Hein, je rappelle, le premier groupe de la classification de Michel Odon, c'est le groupe de la whewellite. Les calculs d'hyperoxalurie primaire sont composés de whewellite, mais avec une morphologie particulière, qui est cette morphologie incée. Alors c'est compliqué de reconnaître ce calcul soi-même urologue en endoscopie, puisque c'est une maladie extrêmement rare. Pour ma part, ça fait 20 ans que je suis urologue, que je passe mon temps dans les cavités rénales ou l'endothéliaire des patients, et il m'est arrivé une seule reprise de croiser cette maladie lithiasique sur un calcul de morphologie incée. Donc je ne vais pas expliquer aujourd'hui comment reconnaître ce type de calcul. Peut-être si quand on aperçoit des bourgeons assez brun clair sur la surface du calcul. Mais on va y revenir après sur la lecture de l'examen du calcul. Il faut savoir que la morphologie incée correspond à l'hyperoxalurie primaire.
Et une fois que l'examen du calcul revient, docteur Estrade, comment bien lire le résultat?
C'est essentiel, mais vraiment prioritaire, d'adresser un ou des fragments de calcul lors de chaque intervention en endo-urologie au laboratoire. En effet, aujourd'hui, grâce aux différents types de lasers, à la fois holmium, YAG et maintenant le thulium fibré haute fréquence, nous pulvérisons la morphologie des calculs et nous détruisons cette information étiologique. Pour autant, à chacun des moments où on va décider de traiter le calcul, si on ne sait pas interpréter soi-même les morphologies qui sont devant nos yeux, alors il est de notre rôle essentiel d'adresser toujours des fragments de calcul au laboratoire pour redresser ce diagnostic morphologique et spectrophotométrique du calcul. Pourquoi ? Parce que grâce au thulium fibré qui va détruire les calculs en poudre aussi, certaines publications, notamment de l'équipe de Tenon et Dodon et d'Emmanuel Keller, qui montrent que les spectres aussi vont être modifiés. Donc, la poudre qu'on va adresser au laboratoire va nous donner des résultats modifiés. Donc, pour en revenir à la lecture du calcul, quand on reçoit un examen de calcul d'un laboratoire, il est important de lire au départ à quel type morphologique s'adresse ce calcul. Est-ce que c'est un calcul pur? Est-ce que c'est un calcul mixte? Le laboratoire, le biologiste, doit détailler la morphologie de surface, de section du calcul, sur un calcul entier ou sur un fragment de calcul, et s'il existe également le noyau. Si vous lisez bien ces résultats-là, vous verrez que vous avez différents types de morphologie, des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'un calcul pur ou mixte, de la surface, de la section et du noyau. C'est prioritaire dans l'hyperoxalurie primaire, parce que si l'urologue va simplement, comme on fait au quotidien, on a été formé pour ça, lire l'examen spectrophotométrique, on va lire « where will it ?» Et si on est passé à côté de la morphologie, eh bien, Wewellit, ça nous renvoie à l'hyperoxalurie, qui est le plus souvent un problème diététique, de défaut d'hydratation ou de consommation d'aliments trop riches en oxalate. Et puis, on pourra passer à côté de ce diagnostic essentiel si on n'a pas lu l'information morphologique précisée par le biologique de calcul de Wewellit, mais de forme morphologie 1C. Cette lecture-là doit nous faire tout de suite arriver à notre conscience qu'on est devant une hyperoxalurie primaire, que c'est une maladie génétique et que ça échappe complètement à notre prise en charge du quotidien. Et là, on doit être sensibilisé à savoir que ce patient est différent du patient du quotidien qu'un calcul de Wewellit 1A standard.
Alors, en cas de suspicion d'hyperoxalurie primitive, est-ce qu'on doit demander une oxalurie des 24 heures?
Alors là, effectivement, on est devant la pratique du quotidien de l'urologue à qui... On nous explique depuis maintenant plusieurs décennies, et c'est tant mieux, qu'il faut faire un bilan métabolique systématique à tous les patients lithiasiques, même à partir du premier épisode de calcul urinaire. Le bilan métabolique recommandé par le comité lithiase ne comporte pas l'oxalurie, ni sur les urines du réveil, ni sur les 24 heures. C'est un choix rationnel du comité lithiase. Alors, est-ce qu'il faut du coup demander une oxalurie des 24 heures aux patients pour lesquels on aura une forte suspicion de diagnostic d'hyperoxalurie primaire? Si l'urologue est déjà sensibilisé à la lithiase urinaire qu'elle a mis en place dans son centre de traitement libéral ou public, une démarche étiologique de qualité avec un laboratoire avec lequel il travaille, avec une mise en place de pré-analytique qui permet justement de diagnostiquer, de doser l'oxalurie des urines du réveil et des 24 heures, parce que ce dosage répond à un pré-analytique extrêmement rigoureux, alors oui, il faudra, sur l'oxalurie des 24 heures, il faudra cibler son regard sur cette hyperoxalurie pour savoir si elle est en lien effectivement avec cette morphologie 1C. Pour l'urologue qui n'a pas mis en place tout ce parcours diagnostique de maladie lithiasique, demander une oxalurie en ville sans prévenir le laboratoire, c'est compliqué. Et le résultat sera souvent faussé si tout le préanalytique n'est pas respecté. Donc, on se concentre sur l'aspect morphologique du résultat du calcul, on décroche son téléphone et on joint les personnes qui savent prendre en charge la maladie lithiasique pour ce type de morphologie particulière. À mon sens, c'est le message qu'il faut donner aux urologues. Pour ceux qui se sont impliqués dans la maladie lithiasique et qui demandent des bilans métaboliques approfondis, validés avec leur laboratoire et avec leur néphrologue, eh bien, soit ils ont l'examen morphologique du calcul 1C et on va trouver une hyperoxalurie à plus de 700 micromoles par 24 heures et qui peut monter jusqu'à 2000 micromoles par 24 heures, soit on n'a pas l'examen du calcul, mais comme on demande un bilan métabolique approfondi systématiquement, quasiment dans un centre expert, justement on concentre son regard sur cette oxalurie des 24 heures, et si on trouve qu'elle est augmentée à plus de 500 et comme j'ai dit plus de 700, voire 2000 micromoles par 24 heures, eh bien là on va faire la démarche inverse, de se poser la question de savoir si on est en face d'une hyperoxalurie primaire quand on n'a pas l'examen du calcul 1C.
Et enfin, docteur Estrade, quelle démarche préconiser pour la prise en charge de ces patients en tant qu'urologue?
De la même façon, au quotidien, en tant qu'urologue, on a affaire parfois à des cancers de l'appareil urinaire qui sont extrêmement graves et préoccupants. on va avoir un réseau de correspondants qui va nous permettre de mettre en place les choses rapidement vers des personnes qui savent prendre en charge ces maladies graves. L'hyperoxalurie primaire est une maladie lithiasique grave au sens où elle va impacter le pronostic rénal et puis éventuellement le pronostic vital, hein, puisque l'hyperoxalurie primaire va entraîner une néphrocalcinose, une destruction du parenchyme rénal, une insuffisance rénale. Donc c'était une maladie grave qu'il faut savoir diagnostiquer, comme je disais, et puis décrocher son téléphone, se mettre en relation avec un centre expert, parce que la prise en charge thérapeutique, ensuite médicale, de ces patients-là, nous échappe nos urologues. Et même pour nous, les urologues experts dans la maladie thiasique, cette maladie est tellement rare qu'il faut, à mon sens, en référer au néphrologue compétent qui saura mettre en place toute la batterie diagnostique, en plus génétique, et puis mettre en place les traitements ciblés, l'hyperhydratation, la vitamine, les traitements nouveaux maintenant avec l'ARN. Ça échappe à notre prise en charge quotidienne. Et à mon sens, il faut adresser ces patients vers des centres experts, puisque cette maladie est extrêmement rare, et comme elle est extrêmement rare, il faut s'adresser aux personnes qui ont l'habitude de s'en occuper.
Eh bien, merci mille fois, Dr Estrade, de nous avoir éclairé sur l'hyperoxalurie primitive. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.